Bonsoir à tous. Jeanne Adède, Aurel San, Étienne Dao, Chris, Eddy Depréto, la musique à l'honneur ce soir avec les Victoires en direct de la scène musicale à Boulogne. Soirée spéciale de 20h à minuit sur France Inter. Nous sommes sur place dès le début du journal. 500 euros d'amende chacun pour le couple de la place de la Contrescarpe à Paris, malmené par Alexandre Benalla et point de départ de l'affaire du même nom. Au sommaire également la relax requise au procès en diffamation contre les accusatrices de Denis Baupin et les médias. Le goût de Carlos Ghosn pour le château de Versailles, il y aurait fêté ses 60 ans avant son mariage. François de Rugy qui tente le bon coup dans le sillage de la pétition L'affaire du siècle. Constance Dolé au théâtre. Et puis le temps doux, mais des averses demain, la pluie dimanche.
France Inter.
C'est donc le grand soir de la musique française. Les 34e victoires sont remises tout à l'heure à la scène musicale à Boulogne-Billancourt et sur France Inter. La soirée commence dans une heure sur Inter avec Rebecca Manzoni et Didier Varro. Et avec vous, bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir Sébastien.
Et d'abord avec une nouveauté cette année Mathieu, la création de deux catégories, album rap et album de musiques urbaines.
Oui, absolument, ça fait partie des petites nouveautés cette année. On notera la création d'une catégorie, ou plutôt d'une catégorie qui se divise désormais en deux, l'album rap et l'album de musique urbaine. Dans la première catégorie, les disques purement rap, et dans la seconde, les musiques plus hybrides, qui mélangent chansons, variétés et pop dans un univers hip-hop. C'est donc en cela plus une précision qu'une création du rap. En voici avec un extrait du dernier album d'Aurel San, featuring Damso, rêve bizarre, Damso favori dans la catégorie rap ce soir, et Aurel San grand gagnant 2018. Ils sont en lice avec ce titre pour la chanson originale de l'année.
Ce soir je me mets, mais là pourquoi je me fais si mal, j'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais de visage, c'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs, j'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey.
Voilà, Aurel San avec Damso, quelles sont les catégories Mathieu, où c'est serré, où il y a presque des duels entre artistes?
Oui, alors parmi les artistes les plus nommés cette année, il y a Eddy Depréto. Il était révélation aux Victoires l'année dernière. Le voici dans la catégorie prestigieuse artiste masculine avec en face de lui Étienne Dao et Big Flo et Oli qui eux aussi se retrouvent dans la catégorie musique urbaine. Eddy Depréto nommé trois fois car on le retrouve enfin dans la liste des meilleurs concerts. Il y aura donc un match amical entre Eddy Depréto et Big Flo et Oli. Autre match entre Christine and the Queens et Jeanne Adède, toutes deux nommées deux fois qui se retrouvent dans la catégorie reine artiste féminine de l'année, en compagnie de Vanessa Paradis. Des artistes aussi sont nommés dans Artistes Pump Rock, Jeanne Adède dans cette catégorie, et l'album de chansons pour Christine and the Queens.
Quels sont vos favoris à vous, Mathieu?
Oui, alors ça, ces pronostics n'engagent évidemment que moi. J'aurais tendance à penser que c'est un peu l'année Eddy Depréto, donc je le passerai moi personnellement gagnant en artiste masculin devant Étienne Dao, qui lui a eu une victoire d'honneur l'année dernière, et Big Flo et Oli, eux pourraient gagner en musique urbaine. Je vois bien personnellement aussi Clara Luciani en révélation scène, ça viendrait valider une année exceptionnelle, et puis je croise vraiment les doigts pour Jeanne Adède dans ces deux catégories artiste féminine et album pop rock. Ça viendrait mettre en lumière l'une des plus belles voix françaises, vraiment, elle le mérite.
Jeanne Adède avec son titre Mutate, qui est aussi le titre de son album.
Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation, see, can you see? See how I operate.
Voilà, Jeanne Adède, peut-être artiste féminine de l'année ce soir aux Victoires. En tout cas, c'est le souhait de Mathieu Culeron et son pronostic. Peut-être aussi Étienne Dao, à moins qu'Eddy Depréto ne le coiffe au poteau. Côté album de chansons, Garo, beau revenant, Bachung avec En amont. Mais Alain Chamfort et son disque Le désordre des choses est là aussi. Bref, Mathieu Culeron en direct. Merci de la scène musicale à Boulogne avec Pierre Quintard. Et donc, rendez-vous à 20h pour la soirée spéciale sur France Inter. Ce sera jusqu'à minuit avec Rebecca Manzoni et Didier Varro.
C'est l'élément qui va déclencher l'affaire Benalla.
Le couple de trentenaires interpellé brutalement le 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris, par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et son ami, gendarme réserviste Vincent Crase, après des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. L'Aurélie Carive, le vendeur et la graphiste, sont condamnés à une peine symbolique, 500 euros d'amende chacun.
Une audience express, même pas une heure et demie, dans une toute petite salle pleine à craquer du tribunal correctionnel de Paris. À la barre, Georges et sa compagne Chloé, à l'allure de jeune couple rangé. Ils sont jugés pour avoir lancé sur les CRS, lui une carafe en verre, elle un cendrier et une bouteille en plastique, place de la Contrescarpe, où ils étaient venus fêter leur 6e anniversaire ensemble. C'était un acte irréfléchi qu'on regrette, plaide la jeune femme aux longs cheveux châtains. La procureure, elle, dénonce des faits inadmissibles et requiert 2 mois de prison avec sursis. Finalement, le tribunal s'en tient à une amende de 500 euros chacun. Nous avons été entendus, estime à la sortie Saïd Saber, l'avocat des deux jeunes gens. L'ampleur prise par l'affaire Benalla leur a, dit-il, servi de leçon.
Les conséquences qui ont suivi les interpellations de Chloé et Georges ont été suffisamment importantes pour eux, pour qu'ils comprennent aussi la mesure de leurs actes. Et ce qui est important pour eux aujourd'hui, c'est d'en finir avec cette affaire. Alors il y a toujours l'information judiciaire qui est en cours, dans laquelle ils sont constitués partie civile. Mais pour ce qui concerne ces jets de projectiles, aujourd'hui, les choses sont établies. Ce ne sont ni des casseurs, ni des black blocs, ni des voyous. La vérité judiciaire a parlé. À partir de là, nous n'avons plus de raison de nous inquiéter sur le portrait qui sera dressé d'eux à l'avenir.
Il est donc indiqué qu'il ne ferait pas appel de cette décision.
La suite du procès en diffamation lancé par Denis Baupin, l'ancien député écologiste, contre les femmes qu'il accuse d'agression sexuelle et de harcèlement, et les médias qui ont révélé leurs propos. Bonsoir Jean-Philippe Dogniaud.
Bonsoir Sébastien.
La procureure a requis ce soir la relaxe.
Oui, d'emblée, la procureure a présenté l'enquête de France Inter et de Mediapart comme un travail sérieux qui ne méritait pas condamnation, puis elle est entrée, bien entendu, dans les détails en répondant point par point à la longue, très longue plaidoirie de l'avocat de Denis Baupin. Pendant presque 3 heures, Maître Pierra avait tenté de disqualifier les deux journalistes. On ne peut pas raconter tout et n'importe quoi, s'agace l'avocat, évoquant un tissu de mauvaise foi journalistique basé sur des rumeurs, des témoignages sélectionnés, tous à charge, des faits inventés, une absence totale d'objectivité et de rigueur, tout ça pour dénoncer la plus vieille attaque du monde, lance Maître Pierra, la plus simple et la plus dévastatrice, l'agression sexuelle, le tout sur fond de règlement de compte politique. Non, a donc répondu la procureure, l'enquête est approfondie, c'est un sujet d'intérêt général, l'anonymisation de certains témoignages pourrait être gênante, mais elle est ici largement compensée par un travail de recoupement, et il n'y a aucune distorsion des faits relatés. Certes, l'enquête judiciaire qui s'en est suivie est plus approfondie, mais on ne peut pas attendre des journalistes qu'ils fassent le même travail que la justice, a conclu la procureure avant de s'interroger sur le sens de ce procès en diffamation. Je me le demande encore, confie-t-elle, il aura eu au moins un mérite, démontrer la nécessité de mettre en exergue une impérieuse lutte contre le silence des femmes victimes de violences.
Jean-Philippe Dogniaud au palais de justice de Paris, le jugement devrait être mis en délibéré et à l'occasion de ce procès justement, cette tribune publiée par Libération, tribune d'un collectif de collaboratrices parlementaires qui affirme que le sexisme sévit toujours dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Jean-Claude Roman reste en prison. La justice refuse la libération conditionnelle du faux médecin condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa famille en 93. Le tribunal d'application des peines estime que sa personnalité et son projet de réinsertion ne présentent pas suffisamment de garanties. Jean-Claude Roman a aujourd'hui 64 ans et il a déjà purgé sa période de sûreté de 22 ans. Lui est toujours détenu au Japon, mais son dossier s'alourdit en France. Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault. On apprenait hier qu'il avait sans doute fait payer une partie de son fastueux mariage à Versailles par la firme aux losanges en 2016. Eh bien, la folie des grandeurs ne s'arrête pas là. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Il aurait aussi profité des 15 ans de l'alliance avec Nissan au château pour fêter ses 60 ans à lui pour un montant de facture de 600 000 euros.
Oui, on parle ici d'une réception, un dîner en grande pompe, toujours à Versailles, le 9 mars 2014. Soirée organisée pour les 15 ans de l'alliance. Seulement voilà, ce 9 mars, ce jour, c'est aussi celui de l'anniversaire de Carlos Ghosn. Troublant de coïncidence quand même, à laquelle Maître Le Borgne, son avocat, répond par un bon mot.
Je veux bien qu'il y ait une coïncidence de date, mais enfin, moi je suis né le jour du débarquement et je n'ai rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale.
L'humour comme ligne de défense, mais pas que, l'avocat français de Carlos Ghosn a aussi des arguments.
Le discours de Carlos Ghosn ce soir-là n'a été qu'un discours concernant l'alliance Renault-Nissan. On me dit encore que ce 9 mars, il n'y a pas plus de gâteau d'anniversaire que de quoi que ce soit d'autre de privé. En revanche, il y a eu un dîner d'anniversaire privé payé par M. Ghosn le lendemain 10 mars, ce qui conforte l'idée que le 9 mars, on faisait autre chose. Et c'est là que je dis que les imaginations s'emballent un peu.
Maître Le Borgne qui dit avoir en sa possession également un carton d'invitation de cette fameuse soirée. Il stipule bien ce carton que c'est l'alliance Renault-Nissan qui était à l'honneur ce soir-là et non son patron.
Maître Lebrun qui dit aussi que son client est prêt à rembourser les 50 000 euros de la location du château de Versailles pour son mariage. Merci Maxime Debs. La femme interpellée pour l'incendie de la rue Erlanger à Paris va être présentée à un juge d'instruction. Sa garde à vue est levée. Elle devrait être mise en examen.
François de Rugy a-t-il entendu les signataires de l'affaire du siècle?
Ils sont plus de 2 100 000 à avoir signé la pétition pour un recours contre l'État pour inaction climatique, du jamais vu en France. Alors, le ministre de la Transition écologique leur ouvre la porte. Sa porte, bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Il propose à 100 de ses signataires, les premiers à répondre, de venir parler climat dans son bureau.
Mais oui, vous considérez que l'État n'en fait pas assez depuis longtemps pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous avez des idées à partager pour en faire plus. C'est l'invitation lancée sur Facebook par François de Rugy, le ministre de la Transition écologique.
J'ai lancé un appel aux citoyens qui ont signé la pétition sur le climat. Je partage cette préoccupation, je partage d'ailleurs cette impatience aussi d'une certaine façon, et je souhaite qu'on puisse discuter ensemble, travailler ensemble à des propositions. Je pense que c'est la bonne méthode.
Sur Facebook, les internautes se déchaînent, coup de com', de l'enfumage, ils réclament des actes plutôt que des paroles. Mais 650 citoyens auraient déjà répondu oui à l'invitation d'après le ministère. Parmi eux, Dylan Eloi, 23 ans, ingénieur en efficacité énergétique. Il a manifesté plusieurs fois pour le climat.
Pour moi, justement, c'est enfin une opportunité d'une part que la jeunesse s'exprime. Et je pense que c'est pas en restant dans son coin à critiquer qu'on arrivera à changer quelque chose. Là, si on nous invite, c'est à nous d'essayer de faire l'effort d'accepter l'invitation et de partager directement avec le gouvernement sur nos idées, sur les ambitions et sur la marche à suivre pour ce défi.
Les 4 ONG à l'origine de la pétition pour le climat ont décliné l'invitation de François de Rugy. Elles ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre aujourd'hui. Si elles n'obtiennent pas de réponse jugée satisfaisante d'ici 10 jours, elles porteront plainte officiellement contre l'État pour inaction climatique.
Sandy Dauphin, on suivra ça avec vous. Et pourquoi pas une votation citoyenne en avril pour composer une liste d'union de la gauche? C'est Benoît Hamon qui y propose, le chef de file de Génération. Main tendue à la France Insoumise, au PS, aux communistes, à Place Publique et à Europe Écologie Les Verts. Mes propositions immédiatement rejetées par la tête de liste d'Europe Écologie, Yannick Jadot. Un 13e samedi de mobilisation des Gilets jaunes déjà programmé. Manifestation déclarée demain à partir de 10h30 à Paris, entre l'Étoile et le Champ de Mars. Le parcours n'est pas connu, mais rendez-vous à 13h dans le centre de Bordeaux. En début d'après-midi aussi sur le Vieux-Port à Marseille. Plusieurs actions encore à Montpellier, Rennes, Lorient, Brest, Nantes ou Toulouse. À Nice, les Gilets jaunes veulent aller à la frontière italienne. François Boulot, lui, défilera à Rouen. L'avocat de 32 ans est un des porte-voix des Gilets jaunes. Il appelle à la grève générale dans une vidéo qui a été vue plus de 2 millions de fois. Voici son portrait avec Thibault Lefèvre.
Agriculteur.
Dans ses vidéos comme en interview, François Boulot déclame les revendications des Gilets jaunes comme un credo.
Nous proposons notamment le retour de l'ISF, mais avec une exonération à 100% pour toutes les sommes qui s'investiraient dans le capital des PME. Et puis sur le plan institutionnel, c'est la volonté d'instaurer le référendum révocatoire.
Un discours rodé, clair et qui tranche avec les balbutiements idéologiques des premières semaines du mouvement. Derrière son gilet jaune, le jeune avocat porte une chemise et une veste, car François Boulot soigne autant son apparence sérieuse, qu'il expose précisément ses arguments.
Quand vous avez dans le pays 9 millions de gens qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, c'est absolument insupportable. Le seul moyen pour remporter le rapport de force qui joue, c'est le blocage de l'économie, c'est-à-dire la grève.
La nouvelle coqueluche des Gilets jaunes est issue d'une famille de droite, mais il pioche ses idées dans les livres d'intellectuels de gauche, comme Frédéric Lordon ou Emmanuel Todd.
Je me situe au centre. La différence avec Macron, c'est que je me situe au centre des 99% et pas au centre des 1%. Ce que souhaitent les gens, c'est ne pas être trahis. C'est pour ça, je pense, que les gens se reconnaissent effectivement dans le discours que j'essaye de porter.
Porter un discours sans représenter le mouvement, c'est donc l'ambition affichée de François Boulot, qui estime que tant que le gouvernement n'ouvrira pas d'espace de négociation, les Gilets jaunes n'auront pas besoin de porte-parole.
Et ce portrait est à retrouver aussi sur franceinter.fr. Dimanche à midi sur Inter, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui répondra aux questions et à l'équipe de questions politiques. L'Italie baisse d'un ton pour calmer le différend avec la France, qui a rappelé au Quai d'Orsay son ambassadeur à Rome. Luigi Di Maio, le vice-premier ministre, défend dans Le Monde sa visite aux Gilets jaunes et assure qu'il est prêt à collaborer avec Paris. Il assure aussi qu'il a toujours regardé la France comme l'étoile polaire des droits sociaux européens. Il redit enfin que tant que le mouvement 5 étoiles sera au pouvoir en Italie, il n'y aura pas de liaison à grande vitesse Lyon-Turin.
Le bras de fer se durcit entre Donald Trump et Jeff Bezos.
L'homme le plus riche du monde, fondateur d'Amazon, propriétaire du Washington Post, accuse l'éditeur éditeur d'un tabloïd de vouloir le faire chanter en menaçant de publier des photos intimes de lui. Alors on s'interroge, bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Sébastien.
Le patron de cet hebdomadaire à scandale est un vieil ami du président américain. A-t-il à voir Trump avec cette tentative de chantage ?
Alors ce qu'on sait, c'est que le National Enquirer est un tabloïd qui appartient au groupe American Media et que le patron de ce groupe, effectivement, David Pecker, est un proche du président. C'est lui qui, en 2016, avait versé 150 000 dollars à une playmate pour acheter son silence sur une supposée relation de plusieurs mois avec celui qui n'était encore que candidat à la Maison-Blanche. Trump et le journal à scandale ont donc, oui, des liens privilégiés, ce qui fait dire à Jeff Bezos qu'il est peut-être la cible d'une attaque politique. On sait aussi que Donald Trump déteste le patron d'Amazon, qu'il a rebaptisé Jeff Bozo, comme le clown, et peut-être encore qu'il déteste encore plus le journal dont Bezos est désormais le propriétaire, le Washington Post.
Et on se demande même si ce n'est pas une agence gouvernementale qui a piraté le téléphone de Jeff Bezos.
Alors ça, c'est une piste évoquée dès hier soir sur la chaîne MSNBC par un reporter du Post. Que dit ce journaliste ? Eh bien que la fuite de ces textos était sans doute une action politiquement motivée et que c'est une entité gouvernementale qui a récupéré ces images, sans donner plus de précision. La Maison-Blanche, elle, par la voix d'un porte-parole, dit ce soir qu'elle ne veut pas se mêler d'une affaire privée. Mais en tout cas, Bezos, lui, veut savoir d'où viennent ces fuites. Pour ça, le milliardaire a embauché un des meilleurs détectives privés du pays. Et ce soir, on apprend que le procureur de New York va se saisir de l'affaire. Bref, tout ceci est un feuilleton politico-médiatique qui ne fait, Sébastien, que commencer.
Grégory Philips, merci en direct de Washington. Trump, qui a rendez-vous aujourd'hui pour sa visite médicale annuelle, lui qui ne fume pas et qui ne boit pas, sauf du Coca Light pour accompagner ses hamburgers. L'an dernier, son médecin l'avait déclaré apte à gouverner, même jusqu'à la fin d'un second mandat. Il n'y aura plus de numéro 9 au FC Nantes. Le club retire le maillot que portait Emiliano Sala, son ex-attaquant argentin, dont le corps a été retrouvé dans l'épave de l'avion qu'il conduisait vers Cardiff. Les places pour le match de dimanche contre Nîmes seront vendues 9 euros également. Et une minute d'applaudissement aura lieu tout le week-end avant les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 en hommage aux joueurs disparus. On termine avec l'une des surprises de la rentrée théâtrale, la pièce Girls and Boys de l'anglais Denis Kelly avec Constance Dolé. Un monologue puissant écrit comme un thriller, sorte de plongée en enfer, Stéphane Capron, dans la vie d'une femme.
Denis Kelly a écrit un monologue totalement remuant. C'est le condensé de la vie d'une femme, de sa rencontre avec son mari à son ascension professionnelle, en passant par son rôle de mère. Il y a de la tendresse, mais aussi de la cruauté, pour partager la brutalité de l'histoire. Constance Dolé invite tous les soirs des spectateurs à partager un repas sur scène. Ils sont les convives privilégiés de la tragédie et reçoivent en pleine figure l'écriture sans concession de Denis Kelly.
Dans cette pièce, ce qui est incroyable, c'est que finalement, il y a quelque chose qui nous happe dans la volonté de comprendre ce qui se trame de manière très sourde et au départ assez nébuleuse, de savoir où cette femme veut-elle en venir. On rentre dans différentes formes de théâtralité, dans différents styles. C'est une pièce à tiroir où c'est vrai qu'au départ, on ne comprend pas forcément où cette conversation va mener. Et puis, petit à petit, on est travaillé par des thèmes, ceux évidemment des rapports entre les hommes, les femmes, les petits garçons, les petites filles, mais on sent bien que c'est pas que de ça dont il s'agit. On a vraiment besoin de connaître l'issue.
L'issue, on ne vous la dira pas pour ne pas gâcher le suspense. Tout ce que l'on peut vous dire, c'est que Constance Dolé incarne avec une force incroyable le rôle de cette mère, et tout cela sans pathos, sans être larmoyante.
Enjoy the Silence, l'un des plus beaux morceaux de Depeche Mode pour conclure cette pièce. Girls and Boys, c'est en ce moment au Petit Saint-Martin à Paris. Enjoy the silence. Eux sont un peu les Simon and Garfunkel de la technique, les Lee Hazlewood et Nancy Sinatra de la console, Ludovic Asselot et Arnaud Caillé. Ils se reconnaîtront indispensables en coulisses toute cette semaine.
Je confirme, c'est un peu de ça, oui.
C'est ça, hein.
Tout à fait.
13, 18, 19 heures de France Inter. Merci messieurs.